Bienvenue dans Cast, une série de rencontres audio en toute intimité avec les personnalités qui font la mode d'aujourd'hui. Avec Nicolas, si on a décidé de lancer ce format, c'est pour vous dévoiler les dessous d'une industrie bien souvent idéalisée et vous entraîner avec nous dans les coulisses de la mode. Cast, c'est un peu comme une place en first row qu'on vous offre pour découvrir tous les visages et tendances de l'industrie. À travers le parcours de nos invités, des dirigeants, des mannequins, des designers et des talents en tout genre, nous aborderons sans tabou, et j'insiste bien sur le sans tabou, toutes les thématiques qui touchent l'univers de la mode.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
La Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
It is. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Okay, you know, now les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ?
That's all, that's all.
À l'occasion de notre tout premier épisode, nous avons la chance de recevoir Alexis Louison, Managing Director de Ford Model Paris, agence iconique. La renommée de Ford n'est plus à faire tant elle a bercé la carrière des plus grands noms de l'histoire du mannequinat, de Carmen Dello Rifichier dans les années 50 à Christy Turlington ou Naomi Campbell dans les années 90. Aujourd'hui, l'agence continue de représenter des figures majeures de l'industrie, Caroline Trentini, Fran Summer, Sora Choi ou Christina Grecaite. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On aimerait un peu que tu nous parles de ton parcours, c'est-à-dire ce qui t'a amené à ta position aujourd'hui, depuis le départ, depuis l'école. Comment ça s'est passé et un petit peu les étapes importantes de ton parcours.
Alors, mon parcours. Donc, je suis né à Paris ou en banlieue parisienne, à Créteil plus précisément. Je suis parti vivre en Guadeloupe quand j'avais 6 ans, parce que mon père est guadeloupéen. Et donc, de 6 à 19 ans, j'ai passé mon enfance et mon adolescence
au soleil.
Au soleil, à la mer, jouer au basket, à vivre en Guadeloupe la vie des îles, mais toujours en voulant revenir vers les grandes villes. Voilà. Et puis, je suis arrivé donc à 19 ans à Paris, 18-19 ans. Et voilà, avec des nouvelles problématiques à résoudre, comment rentrer au bain-douche, comment aller s'intégrer.
Ah, c'est un changement là.
Ouais, s'intégrer dans une ville sans rester. Je suis à la base pas quelqu'un de très communautaire, donc j'ai essayé un peu les soirées antillaises au début, mais ça m'a pas accroché, bébé Antilles et tous ces trucs. C'était sympa, mais je me suis dit, bon, si t'es à Paris, autant voir autre chose.
Vive le truc à fond, quoi.
Voilà. Et puis, donc après, des rencontres, de fil en aiguille, j'ai fini vers 22, 23 ans par même organiser des soirées, dans une des boîtes qui cartonnait à l'époque, qui s'appelait Le Cabaret, où j'ai rencontré, où c'était vraiment mon accès aux personnes de la mode, aux mannequins, aux agents, voilà.
À cette époque-là, t'es étudiant ou t'es venu à Paris pour
Je suis étudiant. J'ai commencé à la Sorbonne, j'ai fait une année d'anglais parce que à la base, j'avais des rêves brisés d'athlète professionnel, de basketteur professionnel, parce que c'était le rêve de ma vie jusqu'à 19-20 ans.
Après, je me suis orienté. Le physique ou par le...
Beaucoup de blessures. Et puis, je pense, avec le recul, que je n'avais pas le talent non plus. Surtout après avoir vu le documentaire sur Tony Parker hier soir.
Ah ouais.
j'ai pas réalisé assez tôt que ce n'était pas la bonne voie pour moi. Mais voilà, je me suis orienté. J'étais en école d'ostéopathie que j'avais fait pendant 3 ans.
Okay.
Et que j'ai abandonné cette période avant de retourner en Guadeloupe vers 23-24 ans et démarrer une boutique de fringues, une société qui avait pris la licence du Elite Model Look aux Antilles. Et, voilà. Et j'ai développé le concours avec mon associé de l'époque.
Mais comment de la boîte de nuit, le retour en Guadeloupe, Elite, c'est quoi le lien entre tout ça en fait?
Le lien, c'était les contacts que j'avais fait. Encore une fois, mon associé de l'époque avait des contacts, notamment Victoria da Silva, qui était la directrice du concours Elite à l'époque, qui nous avait proposé d'organiser le concours. On dit, vous avez des contacts, vous savez comment ça fonctionne, vous connaissez les mannequins. Voilà. Et donc, on a démarré d'abord par la Guadeloupe, après Guadeloupe-Martinique, Guyane. Et puis, dès la deuxième année, on a découvert les mannequins comme Sigrid Hagren, qui sont par la suite devenus les mannequins les plus importants de l'agence Elite dans les années 2000, fin des années 2000, début 2010. Et donc voilà, ça a été vraiment le après. Donc cette partie scouting qui s'est très bien passée, mais je me suis passionné par le management, comprendre le business et me dire qu'il fallait que je passe à l'étape suivante pour savoir accompagner ces mannequins dans la gestion de leur carrière.
Ouais, l'autre côté, c'est-à-dire là, voilà. T'avais fait tes preuves en tant que scout.
En tant que scout, organisateur de casting, organisateur d'événements, parce qu'on gérait tout de démarcher les lieux, démarcher les sponsors, négocier les contrats de sponsors, organiser l'événement lui-même. J'ai commencé après à me faire une petite réputation du coup dans le milieu, et puis j'ai une proposition pour partir travailler à New York chez New York Models.
Okay. Et le réseau, hein, une fois de plus.
Voilà, donc j'ai fait le saut de Guadeloupe à New York en 2009-2010, par là. J'ai d'abord commencé par le scouting aux US, les conventions, c'est un autre système de scouting après l'organisation de concours. Les conventions, c'est vraiment le système américain où on organise des événements payants pour des candidates qui n'ont pas forcément de potentiel, mais c'est un événement.
C'est un business dans le business.
C'est un vrai business. Donc j'ai découvert ça, mais ça m'a permis pendant un an et demi, deux ans, de me créer un vrai réseau d'agents, d'agents internationaux aussi, parce que dans ces conventions regroupent beaucoup d'agents de grosses agences new-yorkaises ou internationales. Puis après, je me suis un peu dirigé vers le booking assez longtemps pour me rendre compte que c'était pas quelque chose parce que je trouve que c'est un vrai talent de savoir préserver une relation client au jour le jour et savoir aussi satisfaire les mannequins. Moi, j'ai besoin de plus de distance et plus regarder un peu dans la globalité ce qui se passe. Avoir une relation au jour le jour avec un client, c'est quelque chose de...
Ouais, c'est complexe. Hein.
C'est quelque chose de très exigeant. Et puis, je pense que le côté commercial, à ce niveau-là, c'est pas forcément ma meilleure qualité. Il y a des gens qui le font largement mieux que moi.
Ouais, il y a des gens qui l'ont dans le sang.
Exactement.
Le côté commercial.
Et donc voilà, j'ai fait le scouting, l'organisation d'événements, le scouting pour US, le booking aux US. J'étais agence mère, et puis au bout d'un moment, New York, c'était la fin de l'aventure. J'ai voulu rentrer à Paris et retourner à Paris presque 12 ans après.
Okay.
Et à ce moment-là, j'ai intégré Elite en tant que scout international. Donc, j'ai passé deux ans dans l'avion, toutes les agences dans tous les pays. Et c'était une super expérience quand on arrive, on contacte toutes les agences sur un marché, donc des agences concurrentes. Et voilà, tout le monde vous ouvre les portes, tout le monde vous raconte les histoires du marché, les histoires sur le concurrent qui est le rendez-vous d'après. Donc, très vite, j'ai passé beaucoup de temps avec des grosses journées, mais en très peu de temps, on peut comprendre
tout l'écosystème,
parce que tout le monde vous ouvre les portes et tout le monde vous raconte tout et tout le monde essaie de se vendre sous la meilleure
jour. Elite, c'est un beau passe, quoi. C'est sûr que c'est le nom de l'agence, il est reconnu mondialement.
C'est un sésame.
Là, t'as quel âge du coup ?
J'ai 34 ans, deux ans dans l'avion, et puis au bout d'un moment, la fatigue, j'ai pris donc plus de responsabilités dans l'agence, un peu transmettre un peu aux équipes du développement, un peu mon expérience, un peu travailler beaucoup sur le Elite Model Look où j'avais démarré, où j'avais aussi une expertise de ce côté-là, sur le développement de carrière et voilà.
Tu le racontes comme si tu avais une évolution assez fluide. On a l'impression que tu n'as pas connu d'embûches. C'est le cas ou c'est juste que tu retiens pas ces moments-là et tu vois la big picture maintenant ?
On a toujours des embûches tous les jours. En plus, la base de notre métier, c'est de résoudre des problèmes. Le bon côté, c'est qu'on apprend toujours. On est dans un business qui change tous les jours et c'était quelque chose qui m'a un peu toujours décrit et posé des problèmes dans mon parcours, c'était vraiment d'être toujours celui qui arrivait, qui était soit le petit jeune, soit celui qu'on considérait qui avait eu de la chance ou qui sait pas de quoi il parle parce qu'il a pas assez d'expérience, etc. Et moi, j'ai toujours vu les choses de façon très pragmatique quand les choses... pour moi, peuvent être améliorées, où il y a des process plus simples, où il y a simplement des évolutions dans la société qui font que c'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis 20 ans d'une façon que
ça va voilà, rester,
que ça va rester comme ça. Donc une fois que j'ai commencé à me faire confiance à ce niveau-là, non, je continue à avancer. Et puis après, fort de l'expérience qu'on accumule, on se pose moins de questions et puis on avance.
L'expérience et les rencontres aussi, j'ai l'impression que tu es entré un peu dans ce milieu-là parce qu'au départ, tu as fait les bonnes rencontres.
Ouais, bah c'est un milieu, etc. Je pense que de toute façon, qui invite. Les gens sont un peu invités dans ce milieu. C'est très difficile. Souvent, les gens ils sont assez frustrés quand ils rêvent d'appartenir à ce milieu et qu'ils n'arrivent pas à le pénétrer.
Moi, je pense c'est assez opaque, quoi. C'est assez hermétique comme milieu.
Voilà, ce qui était déterminant au début, c'était voilà, la rencontre avec Lou Carillon, qui est mon ami de chez Next, et Victoria da Silva, qui était au concours élite à l'époque et qui m'a proposé...
Qui te font confiance.
Ouais, de rentrer dans le business. Après, il faut savoir prendre l'opportunité et puis travailler. Et puis, c'est sûr qu'on ne fait pas de cadeaux. Il faut savoir prendre sa place et avancer.
Personne ne te donne la place.
Non. Et puis, mais c'est aussi un milieu de rapport de force. Il faut savoir que... quand on a un rapport de force favorable, il faut savoir en profiter parce que le moment où la situation se retourne,
il va arriver très
les
vite.
Gens n'hésitent pas à vous écraser. Donc,
voilà. Donc là, expérience élite, dans ta carrière, c'est quoi l'étape d'après ? Tu restes un moment chez Elite, c'est ça ?
Alors, je reste 3 ans et demi, 4 ans chez Elite. Après, il y a beaucoup de mannequins auxquels j'étais attaché, que j'ai vu grandir ou...
que t'as starté du coup.
Ouais, j'ai eu la chance de partager l'aventure avec plusieurs mannequins avec qui je travaille encore aujourd'hui, qui sont hyper importantes, que ce soit Sigrid Cora, Emmanuel, Estelle Chen, Céline Akan, qui sont les mannequins que j'ai découvert personnellement avec d'autres personnes, mais qui font toujours. Pour la plupart maintenant, sont devenus mamans, ont acheté leur maison, ont des maris, ont développé une autre vie, parfois en dehors du business, et c'est une vraie satisfaction de voir ça. Mais au bout d'un moment, voilà, chez Elite, j'ai été approché par le groupe Ford qui cherchait à restructurer le bureau parisien qui ne fonctionnait pas bien.
Ils avaient fait plusieurs expériences, c'est ça, avant toi.
Ils avaient réouvert en 2014, mais... une première équipe n'avait pas fonctionné et puis ils avaient besoin de restaffer, redémarrer un projet. Donc voilà, j'ai été séduit par le projet parce que...
Comment ils viennent à toi justement ? C'est quoi ? C'est ton nom qui tourne ? C'est quelqu'un qui fait une passe ?
Pour être honnête, c'est un peu des confidences, mais bon, maintenant je pense qu'il y a prescription. Il y avait une nouvelle CEO qui avait pris les rênes du business à New York et je sentais que c'était un moment un peu particulier dans le groupe Elite aussi où il y avait beaucoup d'insécurité, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu malheureux et qui voulaient partir. Et donc voilà.
Et toi, t'étais comment à cette époque-là, je veux dire là-bas ? Une envie de partir ou c'est vraiment pour l'occasion ou...
Avec le recul, j'ai beaucoup appris de ça. Je pense qu'il y avait un problème de pyramide des âges chez Elite à ce moment-là, où c'est que j'étais le seul employé dans la trentaine. Il y avait soit beaucoup de seniors et des gens très performants, etc., soit des jeunes. Et moi, j'étais dans une situation où j'avais besoin d'évoluer, mais que j'avais pas forcément la légitimité par rapport aux anciens. Et bon,
ça... Et t'étais pas assez jeune pour les petits jeunes.
Voilà, et je transmettais aux petits jeunes qui eux-mêmes avaient du mal à communiquer avec les anciens. C'était pas une position super agréable. Bon, voilà.
Moi, donc c'était, ça arrive au bon moment, en fait.
Voilà, c'était le moment pour moi de pouvoir montrer que ce en quoi je croyais pouvait fonctionner.
Donc tu commences l'aventure Ford.
Je commence l'aventure Ford avec...
C'est une négo qui est longue pour faire ton...
Ouais, ça prend du temps parce que c'était un projet... Enfin, je suis quelqu'un qui est assez impulsif, assez intuitif, mais je réfléchis énormément et j'aime bien faire des plans une fois que la décision est prise et de savoir comment réaliser ce que j'aimerais. Donc il fallait déjà, c'est encore une fois un business où on ne peut rien faire seul. Donc il faut avoir une équipe de gens, un compétent et deux avec qui on partage une vision.
Et valeurs.
Donc c'était le cas avec Jérémy qui est à l'époque chez Viva, qui avait quitté Elite un an avant. Et quand je lui ai parlé du projet, il a dit « Allez, banco, on y va ».
Donc et vous connaissiez d'Elite depuis des années, quoi?
Depuis des années. Il était, quand je suis arrivé chez Elite, il était au New Face. Il était devenu après directeur des New Face. Donc il avait cette expérience de cette époque chez Elite qui était complètement dingue, de pouvoir, d'avoir 50 New Face en ville, le genre de choses. Donc lui, il avait l'habitude de gérer énormément de mannequins en ville, d'avoir des grosses qualités d'organisation et de prod. Et après, passer chez Viva où il s'est retrouvé avec, tu dois gérer deux filles et les tenir occupées. C'était un peu l'extrême, mais je pensais que c'était important pour lui aussi d'avoir une autre expérience de...
Oui, bien sûr, de management.
Voilà, de voir que le système Elite, c'est un système qui correspond à Elite, qui marche pour eux. Mmh. Viva, qui a une autre stratégie, et nous, qu'on allait faire quelque chose qui allait nous ressembler aussi. Hein.
Ok, donc le premier soldat, c'est Jérémy que tu vas chercher.
Exact.
Comment tu lui vends le truc pour le faire venir?
Ben, je pense que... voilà. Ford, c'est une marque qui parle. C'est dans le milieu des agences de mannequins, il y a Elite et Ford. C'est Pepsi et Coca. Ouais. C'est les deux marques. Les autres sont des agences de mannequins, mais sont pas des marques. Et donc c'est un projet qui marque, qui fait rêver, qui garantit aussi un certain accès à des talents. Qui aussi garantit qu'on prendra le téléphone au début et qu'on se présentera et qu'on dira voilà, on appelle de chez Ford.
Les gens répondront.
Les gens décrocheront. Enfin, c'est des choses. Je pense que moi, j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec une marque. J'ai démarré en tant que licencié du Elite Model Look. Je sais qu'en deux ans, en Guadeloupe à l'époque, quand on organisait le concours, on avait tous les plus gros sponsors, que ce soit BMW, le Club Med, les gros centres commerciaux locaux.
C'est la puissance de la marque, ça.
Voilà, c'est savoir travailler avec une marque, respecter une image de marque et un environnement d'une marque et savoir créer des synergies avec d'autres partenaires, que ce soit des sponsors ou nos clients aujourd'hui. Mais voilà, moi j'ai jamais voulu brander Alexis Louison Models ou Jérémy Models. On travaille, on développe une agence, on développe une marque et je trouve que c'est beaucoup plus confortable.
Ouais. Jérémy te rejoint, tu commences à structurer le bureau.
Jérémy rejoint, on a aussi d'autres partenaires qui ont démarré aux États-Unis à Ford New York. Et puis voilà, on commence le scouting, développer une fille à la fois, deux filles.
Est-ce que vous arrivez avec une stratégie qui est un peu, qui coupe avec ce que font les autres?
Voilà, on est arrivé sur une stratégie de... Voilà, on a démarré un board de zéro, donc on a vraiment développé les filles une à une. Et voilà, avec une approche plus personnalisée, une espèce de mentalité de boutique agency dans un gros nom de network. Donc, c'était, je pense, le meilleur moyen d'établir l'agence au haut niveau et de démarrer par le haut.
Moi, en tant que client, quand je vous ai vu arriver, c'est vraiment ce sentiment, c'était très peu de filles, vraiment le plus haut du panier. Donc c'est quoi? C'est une stratégie de scouting qui a été très très stricte depuis le départ?
Je pense que pour établir une agence, et surtout nous, Ford, il fallait avoir une approche du haut vers le bas. C'était développer l'image, développer les relations, porter beaucoup d'attention sur la qualité de tout le matériel visuel qu'on produisait, que ce soit vidéo ou photo ou... Toute l'image de l'agence, on avait refait tout le site internet avec Fabien Baron. Enfin, on a réinvesti énormément sur l'image du network, sur le site internet, sur les polices, sur Il n'y a pas une planche de Polaroid qui sort dans nos bureaux, que ce soit à New York ou à Paris, qui n'a pas le même layout, les show reports. Et puis une stratégie aussi de, quand on n'a rien à dire, on n'a rien à montrer, ben on ne dit rien et on ne montre rien. Tant qu'on n'avait pas le bon site internet, on n'avait pas de site internet. Tant qu'on n'avait pas de choses à dire, on ne disait rien. On n'allait nulle part, on n'allait pas aux soirées, et puis on a laissé au début nos mannequins parler pour nous, et le travail, je pense que c'était la meilleure chose à faire.
C'était un gros pari quand même, hein.
Avec le recul, quand je regarde, c'était une grosse année pour moi. En plus, je venais d'avoir mes fils, j'ai des jumeaux qui aujourd'hui ont 5 ans, c'était... Après, voilà, je pense que c'est quand... De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je ne regrette pas, mais c'est vrai que c'est une capacité aussi à mettre le travail en face d'idées, de projets. Il n'y a rien qui va se passer en restant à la maison.
Ah non, ça c'est sûr. Voilà.
Mais je pense qu'avec l'expérience, je sais que je ne suis pas un très bon employé. J'ai besoin de projets, j'ai besoin de challenges, j'ai besoin de défis et j'ai besoin aussi de liberté. Donc, c'est...
Ok, donc la première saison, deuxième saison, la sauce prend. Donc c'est quoi dans l'évolution de toi, de ta position et de la boîte? C'est quoi l'étape d'après?
Alors nous, à Paris, peut-être à la différence de mes autres collègues aux États-Unis, j'ai tout de suite compris que l'actionnariat et les propriétaires du groupe à l'époque... Enfin, au début, c'est très bien, tout va bien, c'est le chèque en blanc, c'est illimité, mais que va très vite falloir montrer des résultats et des résultats financiers. Donc, j'ai toujours fait attention à respecter les budgets, respecter les engagements, les projections, avoir une idée claire sur quand on allait pouvoir être rentable, comment et comment y arriver. Donc, on a réussi, nous.
C'est sûr que quand tu as des financiers en face, si tu leur parles d'un show package, ça va pas trop leur parler, quoi.
Non, mais faut juste savoir traduire le langage de la mode dans un langage qui peut parler à des financiers. Okay. Voilà. Et puis surtout, c'est quelque chose que j'avais très bien compris dès le début, c'est on peut demander, quand on va voir quelqu'un, lui demander 1 million, mais c'est beaucoup plus dur de lui demander 2 fois 500 000 euros. Donc, et c'est les financiers, c'est ça au début. Ils détestent devoir remettre de l'argent. Et nous, on a eu de la chance, ou de la chance qui... tout s'est bien passé. On a tenu nos business plans. On est devenu rentable en moins d'un an et demi, malgré des soucis que le groupe nous avait mis en mettant, je passe des détails, mais des bâtons dans les roues au niveau financier. Mais cette pression du chiffre à New York a fait un peu exploser l'équipe de New York. Et on s'est retrouvé dans une situation où voilà, on avait l'esprit du network qu'on avait au début et c'était un peu effrité.
Parce que du coup, les gens qui étaient à New York sont repartis.
Voilà, repartis, certains vers le groupe Elite, d'autres vers d'autres groupes. Et donc, on a dû aussi accompagner les mannequins qu'on représentait vers d'autres agences à New York et du coup, se retravailler avec plusieurs agences à New York. Donc là, c'est mon expérience d'avoir bossé à New York me permet aussi d'avoir des gens de confiance dans à peu près toutes les agences à New York, donc ça n'a pas été un gros problème, mais c'était voilà, c'était une transition, une adaptation à une nouvelle organisation. Et voilà, et puis donc au bout d'un moment, j'ai approché le groupe pour leur dire que voilà, je voulais arrêter de dépendre des aléas de ce qui allait se passer à New York, et pour m'inscrire dans une stratégie de long terme, je voulais avoir une façon d'opérer plus
libre,
plus libre et indépendante, tout en travaillant ensemble et en continuant avec la marque, mais voilà, être libre de contrôler mon destin. Et donc j'ai fait une offre de partenariat et qui a été acceptée, et quand on a fini de cette négociation, on a signé le à la fin de l'année 2020.
Bah, félicitations. Super, alors. Hein.
Merci. Donc, on est devenu.
Tu nous lâches une bombe, là.
Ouais, donc, on est depuis le 1er janvier une franchise, une licence. Donc, on travaille étroitement avec le groupe. Mais ils sont toujours associés avec nous. Mais on a quand même une totale autonomie, que ce soit financière, de stratégie.
T'es voilà. Chez toi, quoi.
Ouais. Enfin, autant qu'on puisse
l'être. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une grosse étape, ça. Je veux dire, pour toi, dans ta carrière, parce que ça fait combien de temps, du coup, tout ce que tu nous racontes, c'est sur combien d'années ?
Ça a démarré en 2016, donc Jérémy et moi 2016.
Non, je veux dire ta carrière à toi.
Moi, j'ai démarré en 2004, ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. Donc
voilà, de mec qui connaît les gens en boîte de nuit à aujourd'hui patron et propriétaire de l'agence Ford Paris, c'est un sacré parcours quand même.
Ouais, ça a été... ouais.
C'est un bel accomplissement.
Non, mais c'est cool. Enfin, c'est aussi un petit peu le thème du podcast, c'est de faire venir des gens qui n'ont pas spécialement des parcours typiques, qui viennent du sérail et qui sont self-made, tu vois. Et c'est pour ça qu'on voulait t'avoir avec nous. Et c'est dans cette optique aussi d'inspirer des gens qui sont peut-être en train d'écouter le podcast en province ou en Guadeloupe ou qui pensent que c'est pas possible, que c'est fermé à tout le monde et que voilà, on essaye de montrer des parcours qui est grâce au travail. Et à l'intelligence, on réussit à aller au bout de leurs objectifs, quoi.
Ouais, moi je suis pas encore au bout, hein. Perso, là, je vais commencer. J'ai de la chance. C'est aussi une des raisons qui m'a poussé à faire ce move, c'est que j'ai une équipe extraordinaire et que ce soit Elodie, Romain, Cyril.
Parce que là aujourd'hui c'est quoi Charlotte, c'est combien de personnes l'équipe? C'est structuré comment?
On est 11. On a une directrice financière. On a toute une équipe, un art department. On a 4 agents, une autre qui est en congé de maternité, qui va revenir, un légal.
Et toi, tu te positionnes comment justement dans tout cet organigramme? C'est quoi ton... Je veux dire, t'es impliqué dans le booking? T'es impliqué dans
quoi? Je suis impliqué à tous les niveaux. Moi, je pense que voilà, ça reste quand même une société et une activité d'humain. Donc, les gens ont besoin de me parler, que ce soit les mannequins, les agences mères, etc. Chacun est... Voilà, j'essaie de m'entourer avec des gens... très compétents dans leur milieu, qui sont tous meilleurs que moi dans leur spécificité. Et moi, j'ai une approche assez généraliste de ce business où je peux aussi bien faire mes réunions à la finance avec la banque qu'avec une agence mère, qu'avec un client, mais voilà, en étant libre d'intervenir à tous les niveaux. C'est pour ça que le titre de directeur général que j'avais au début me correspondait bien, c'est-à-dire je peux intervenir à tous les niveaux de l'agence, mais voilà, le but c'est vraiment de s'entourer de gens compétents dans leur activité.
Et qui fait le scouting du coup?
Ça c'était, c'est encore le modestement la partie où j'ai pas encore trouvé meilleur que moi, donc je garde.
Tu gardes mais, la mise dessus.
Voilà, mais en fait c'est parce que j'ai aujourd'hui, en plus, le monde a changé depuis les réseaux sociaux, Internet, et puis encore plus depuis un an avec le Covid. Donc, les nouvelles techniques de digital, de Zoom, font qu'il y a de moins en moins de gens qui sont capables de dire qu'ils ont des contacts privilégiés personnels avec des gens parce qu'ils ont voyagé un peu partout, comme j'ai eu la chance de le faire avant. Donc voilà, il faudra accompagner cette période de transition. Le scouting, c'est quelque chose de très important dans une agence. C'est ça qui détermine aussi l'image de l'agence. Et puis, je pense que j'ai encore un peu de passion pour ça. Donc, je vais continuer à le faire un moment. Après, il y aura d'autres catégories de scouting quand l'agence se développera, que ce soit sur éventuellement une division homme ou talent où il faudra que je trouve voilà, des gens compétents dans ces différents secteurs.
On peut juste faire un petit point technique. On a abordé pas mal de termes là. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément le milieu, est-ce qu'on peut rappeler juste le rôle d'une agence aujourd'hui dans l'industrie, dans l'écosystème? À quoi vous servez? Quel est votre rôle?
Alors, le rôle d'une agence de mannequins, c'est de mettre à disposition des mannequins pour des marques. Donc, pour des défilés, pour des shootings publicitaires, de lookbook ou pour des campagnes de parfums ou cosmétiques. Voilà, en gros, les activités à Paris du business traditionnel. Maintenant, voilà, il y a des influenceurs qui peuvent être mis à disposition par des agences de mannequins pour réaliser des posts Instagram, des takeovers Instagram, et il y a toutes sortes de nouvelles catégories de jobs qui ont apparu ces dernières années. Mais voilà, en général, c'est fournir, mettre à disposition des mannequins pour des marques. Et dans notre positionnement, ce sera plus des marques de luxe, type du groupe LVMH, Kering.
Okay. Voilà. Et votre position par rapport aux mannequins que vous représentez aussi, parce que vous avez cette vocation-là aussi d'accompagner les mannequins, de les guider, souvent c'est des profils assez jeunes.
Oui. Alors, ces dernières années, c'est une bonne évolution de l'industrie, c'est que c'est très difficile pour un mannequin de travailler en dessous de 18 ans. Ça a été quelque chose qui est apparu vraiment ces 4 dernières années. Quelque chose qui est très bien, ce qui nous enlève aussi le poids pour nous, les agences, surtout à Paris ou dans les capitales de la mode, d'avoir un travail de développement trop lourd qui est plus trop adapté à l'époque, en fait. Et donc on est beaucoup plus exigeant avec les mannequins. C'est vraiment ce qui est dommage, c'est que c'est une profession et un peu léger. Je pense qu'il faut toujours accompagner les mannequins au début, à bien leur expliquer ce qu'on pense nous évident mais qui ne l'est pas forcément, et que c'est un métier qui s'apprend, qu'il y a des skills qui se travaillent. Et malheureusement, beaucoup de mannequins qui n'ont pas cette intelligence de le comprendre assez vite, ratent leur chance. Et c'est aussi beaucoup de la responsabilité des agences.
Ouais. C'est une transition parfaite, parce que c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que le métier de mannequin, c'est quelque chose d'assez facile. On se dit, bon, c'est juste des jolies filles qui ont quelque chose d'assez inné, en fait, et qui, du coup, n'ont pas besoin de travailler. Elles ont juste besoin d'être jolies et de se pointer au bon endroit, au bon moment, mais que c'est pas forcément un travail qu'on valorise énormément.
Moi, j'ai énormément d'admiration pour les mannequins. Je pense que c'est un travail extrêmement dur, qui demande énormément de remise en question. Je sais que Estelle est passée vous voir, et c'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on accompagne depuis des années, et qui n'a pas eu tout servi sur un plateau, qui a
elle
eu beaucoup
raconté,
d'échecs
d'ailleurs.
Évidemment, et elle a travaillé, et bon, elle pourra vous dire, je pense qu'Aura Emmanuel aussi peut vous raconter, que moi je suis pas quelqu'un, je suis très dans l'empathie, dans l'accompagnement, mais il faut se battre, il faut avancer, il faut donc on dit voilà, c'est faut arrêter de prendre les choses personnellement, il faut travailler, comment on peut s'améliorer, comment on peut travailler pour atteindre le but qu'on s'est fixé, et comment chaque année, quand on finit l'année, on fait le bilan et on a vu qu'on a travaillé avec des nouveaux clients, notre carrière a avancé dans la bonne direction, et qu'on a fait plus cette année que l'année d'avant, et que voilà, le but c'est pas de tout faire tout de suite, c'est de construire quelque chose de pérenne et qui évolue et qui progresse.
Ouais, moi, je dis souvent, c'est une carrière qui est proche d'une carrière de sportif de haut niveau, parce que tu te retrouves très jeune à devoir faire des sacrifices, à être loin de ta famille, de tes repères.
C'est extrêmement dur. Extrêmement dur pour beaucoup. Et beaucoup de mannequins n'ont pas la chance d'être bien entourés. Donc, pour celle-là, c'est encore plus dur. Donc, je pense non. J'ai beaucoup d'admiration pour les mannequins, et c'est un métier très exigeant, très ingrat. Il n'y a pas forcément. C'est aussi voilà. En tant qu'agent, c'est quelque chose que j'ai appris à expliquer aux filles qui au début veulent toujours savoir mais pourquoi, c'est quoi la raison, etc. Et c'est quelque chose de difficile à admettre, mais si on demande à 10 clients pourquoi vous n'avez pas booké ce mannequin aujourd'hui, ben, un dira ben, elle est trop grande, l'autre elle est trop petite. Ben, ce seront des informations complètement contradictoires et qui sont à la fin qui n'aident pas du tout le mannequin dans sa démarche. Donc il faut juste prendre certaines critiques constructives, et nous on est là pour filtrer, donc pas justifier, pas raconter des histoires, pas essayer de justifier parfois ce qui n'a pas, il n'y a pas de justification, et juste aider, soutenir les mannequins et les aider à avancer, progresser.
Ok, bah justement, j'ai une petite question pour les filles que ce métier pourrait faire rêver. Est-ce que tu aurais quelques conseils de base, toi, à partager? Les fondamentaux, quoi.
Alors, c'est un peu déjà savoir à quel niveau on veut le faire et évoluer. Pourquoi on veut le faire? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut en faire un vrai métier? Est-ce qu'on veut juste avoir une expérience et comprendre si on est attiré par le milieu de la mode? Donc voilà, il faut vivre l'aventure. Si on veut en faire une vraie carrière, il faut vraiment se préparer, s'entourer. et se renseigner et le prendre comme un vrai travail. Certains mannequins sont là juste pour l'expérience, etc. Je pense qu'il y a énormément de choses à en retenir, quel que soit, même si ça dure un an ou si ça dure six mois, il y a évidemment des super expériences à en retenir. Mais si on a le potentiel et l'ambition de pour faire sa place dans ce milieu, il faut s'en donner les moyens.
Ok. Moi, d'un point de vue extérieur en tant que casting director, ces dernières années, le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de new faces qui disparaissent et qu'on voit une saison, deux saisons, parce qu'il y a cette demande des clients de voir toujours du neuf, du frais, tout ça. Et toi, quel serait le conseil que tu donnerais? Quelle est ta vision pour essayer justement de qu'une jeune mannequin ait une carrière plus pérenne qui dure peut-être plus sur le long terme? C'est quoi pour toi les clés?
Alors, je pense que déjà, c'est le potentiel d'un mannequin, il est déterminé déjà par le mannequin. C'est la personnalité d'un mannequin, sa capacité à créer des liens avec ses clients, c'est ce qui détermine. Nous, on est là pour leur ouvrir la porte, et souvent, mon collègue Kwok aux États-Unis qui disait souvent ça. Nous, notre mission, c'est de les mettre dans la pièce, et le temps qu'elles passeront dans la pièce, ça dépend d'elles. Et nous, de notre côté, on arrive à identifier les mannequins qui arrivent à rester longtemps dans la pièce et du coup leur ouvrir de plus en plus de portes pour qu'elles rencontrent le plus de clients. Mais typiquement, notre métier dépend du mannequin énormément. Et donc pour travailler, nous, on saura faire les choix derrière pour assurer la longévité d'un mannequin dans la stratégie de management qu'on fera. En concertation avec le mannequin, je trouve que c'est bien que les filles soient décisionnaires à la fin, même si on doit prendre à la fin les décisions, on ne les laissera pas prendre des décisions contre leur propre intérêt, mais qu'elles fassent partie de l'équipe. Ça marche bien quand c'est un travail d'équipe et que les filles sont impliquées dans leur carrière et dans la stratégie de leur carrière.
Comment tu définirais le management Ford vis-à-vis des mannequins?
Le management Ford, je pense que on a une approche, je pense, de par mon passé d'agence mère très collaborative.
Ouais, c'est ce que tu décris là, quoi. Voilà. L'avis du mannequin compte.
L'avis du mannequin, l'avis des agences mères avec qui on travaille, parce que souvent ce sont des agences mères avec qui on a des rapports privilégiés, qu'on respecte, qu'on consulte, avec qui on discute, nos agences partenaires à l'étranger. Et notamment à New York, même si on travaille essentiellement avec Ford New York, mais les autres agences avec qui on a décidé de travailler, on travaille en toute transparence, que ce soit sur la stratégie, les opportunités qui se présentent pour chaque mannequin. Et voilà, la transparence, la collaboration, et il y a des phrases interdites à l'agence et que j'ai entendu dans beaucoup d'agences dans lesquelles j'ai travaillé avant. Par exemple, une des phrases interdites, c'est pour justifier de pourquoi tu penses qu'un mannequin devrait faire un job. Beaucoup d'agents ou d'agences disent ça va pas la tuer ou genre de choses. Nous, c'est quelque chose que je veux pas entendre. Si on part du principe que c'est le seul argument qu'on a pour justifier qu'un mannequin doit faire quelque chose,
c'est non, pas suffisant. Voilà.
Ça peut être l'argent, ça peut être parce qu'elle a besoin de d'autres choses dans son book, de développer de nouvelles relations. Il y a 50 raisons pour justifier d'un choix stratégique, mais ouais. Que ça ne va pas la tuer, non.
Justement, comment est-ce que vous gérez la balance entre le côté commercial, donc les deals qui ramènent un peu d'argent, qui sont plus des deals en fait avec des grosses marques, etc., et le côté un peu plus éditorial où on travaille plus l'image, où on va chercher des choses un peu qui sortent de l'ordinaire?
Personnellement, je pense que tout a un prix.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que n'importe. En fait, c'est aussi une discussion qu'on a à l'agence. Moi, je pense que n'importe quel projet mérite d'être discuté. Et voilà, il y a toujours une façon de dire oui. Que si, par exemple, je dis n'importe quoi, même si demain Monoprix nous approche pour le plus grand, notre meilleur mannequin du moment, le plus image, ben, peut-être qu'il y aura une discussion à faire. Je me souviens dans les années 90, je me souviens que Pizza Hut, tous les grands tops faisaient les, et j'adorerais qu'on retourne à une époque comme ça où, voilà, on peut se poser et dire, voilà, nous, la direction créative de, qu'on cherche sur ce mannequin, ce serait plus ça. Si vous pouvez nous avoir Steven Meisel pour Monoprix et qu'il y a 1 million d'euros, on le fera Monoprix. Et donc, c'est, voilà, c'est une, le problème de notre business, je trouve, est devenu trop un business de rapport de force où, ouais. Il y a la dimension de négociation a été exclue et nous a été ôtée aux agents où, voilà, tu dois faire telle campagne parce qu'il faut la faire. Pour zéro argent, mais c'est bien pour le futur. Enfin, moi, ce genre d'argument, j'ai du mal. Je trouve que j'aimerais remettre des notions de mise en concurrence. C'est pas personnel, voilà. Mais à la fin, quand on l'équilibre. Doit prendre, voilà, quand on doit prendre une décision sur un choix entre deux marques ou deux contrats, je vois pas pourquoi la dimension de la rémunération pour le mannequin doit être exclue et que c'est non, il faut penser à sa relation avec telle personne, tel casting director. Désolé, Nicolas. Mais c'est lui qui lui a fait faire sa première page de ce, je sais pas. Ce genre d'argument, moi, j'aimerais qu'il disparaisse et qu'on reparte sur un business plus équilibré dans les rapports de force. Oui, il y a beaucoup de,
d'égo dans les deux sens.
Il y a beaucoup d'égo, mais ça dessert tout le monde, en fait. Je pense que tout le monde s'est appauvri dans ce business depuis les 20 dernières années parce qu'on a commencé à justifier des choses injustifiables qui ne s'appliquent que dans ce business, mais c'est pas vraiment explicable parce qu'à la fin, je pense que l'enveloppe est toujours là. Elle est juste distribuée différemment.
Complètement. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on parle un petit peu de ça, du rôle qu'a joué l'explosion du digital et d'Internet dans les rapports de force. Ça a été une grosse tendance à un moment de choisir ces mannequins rapport au nombre de followers qu'elles pouvaient avoir parce que derrière, c'est complètement rationalisé et il y a cette idée de qu'elle sera moins ROI sur telle ou telle campagne parce que l'Internet et le digital a amené ces métriques-là où on pouvait très vite se rendre compte de j'investis sur cette fille parce que je sais qu'elle me rapporte tant. Ouais. C'est quoi ta vision là-dessus? Comment est-ce que tu as vu les choses évoluer? J'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas maintenant, peut-être.
Ben, nous, je pense que ces 5-6 dernières années, on a vu tout et n'importe quoi. On a vu une époque où, au début, les mannequins s'achetaient des followers. Il y avait des prestataires qui leur vendaient des enveloppes de followers avec des enveloppes de likes et des enveloppes de comments. Je pense qu'on est revenu de ça. Je pense qu'on est revenu depuis un bon moment sur cette approche de le nombre justifie l'argent, ce qui est pas ça. Maintenant, il faut savoir faire vivre sa communauté.
Complètement.
Et je pense que les mannequins ont de plus en plus de pouvoir au moment où elles auront compris comment vendre quelque chose à leur communauté directement. Et c'est nous, en tant qu'agence, savoir comment se placer là-dedans parce que on les aide quand même à développer leur image, qui fait que on fait partie de l'équipe, de la communauté, donc il faut quand même qu'on s'y retrouve. C'est un challenge, je pense, une discussion qui doit être ouverte. Mais le nombre et les réseaux sociaux, moi je suis pas le followers pour followers, non. Et il y a quand même quelque chose de magique dans notre business qui, à la fin, un créatif sera inspiré par un individu, indépendamment de ses réseaux sociaux. Il y aura toujours l'individu qui correspondra à cette campagne, à ce film qu'on veut réaliser, à cette robe qu'on veut dessiner, et ça sera et cette robe elle sera dessinée pour Fran Summers ou pour Estelle ou pour Chris, mais ce sera pas une autre malgré des followers, etc. Donc c'est cette dimension qu'il faut toujours qu'on garde dans notre business, cette dimension créatrice et artistique. Le jour où celle-là disparaîtra, ça sera un autre business.
Parce que toi, à l'époque où tu étais chez Elite, ça a été un petit peu justement l'époque de la révolution Instagram, avec les Kendall, Cara, qui étaient chez Elite. T'as vu ça à l'intérieur, du coup.
Moi, je l'ai vu à l'époque où on était... Donc, quand je suis arrivé vraiment chez Elite Paris, Cara était déjà là. C'était un phénomène que personne ne comprenait. Même, je me souviens qu'on... même les clients français, Cara Delevingne, non, ça parlait plus aux clients anglais. Les clients français s'y retrouveraient pas avant que Karl la prenne chez Chanel et que lui comprenne. Je me souviendrai toujours que la première fois que Kendall est venue à l'agence et que elle est même, je l'ai emmenée faire un tour sur mon scooter, qu'elle a posté une photo et qu'il y a eu 500 000 likes sur une photo sur mon téléphone qui devenait fou. Et c'est là que j'ai vraiment compris la puissance des réseaux sociaux et qu'il y avait qu'il se passait quelque chose. C'était vraiment de voir mon téléphone chauffer avec tous ces likes. Et, là, c'était en 2013-14, je dirais. C'était vraiment les tout débuts d'Instagram. Quand Kendall est venue la première fois à l'agence, elle avait 1 million de followers, ce qui est déjà énorme. C'est énorme, mais ouais. C'est 1/100 de ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, ce sont des outils extrêmement puissants.
Ouais, extrêmement puissants, mais qui peuvent faire aussi beaucoup de mal, non ?
Je pense que c'est un peu comme le Covid. On n'a pas encore vu tous les effets de ce que les réseaux sociaux sont en train de créer sur notre jeunesse, sur les ados. Bon, on a déjà vu un peu le cyberbullying et les conséquences dramatiques que ça peut avoir, mais ouais. Sur le plus long terme, au niveau des maladies mentales que ça génère, de l'insécurité, c'est vraiment très très dur.
Ouais, quelque chose dont on parlait la dernière fois, c'est ce côté comparaison. En fait, Instagram aujourd'hui donne accès à la vie rêvée de tous.
Exactement.
Donc on sait très bien ce qu'on en fait, hein, qu'on montre ce qu'on a envie d'y montrer, mais c'est un peu dur de prendre la mesure, de prendre la recul, et surtout on a toutes les infos sur la vie de tout le monde.
Ouais, en plus des infos qui sont erronées,
qui
sont éditées et orientées. Ouais. Donc,
je lisais un truc l'autre jour et j'ai trouvé ça tellement vrai, c'est on compare l'extérieur des gens à notre intérieur, dans le sens où voilà, les gens, ils montrent le côté édulcoré, que les bons côtés de leur vie. Donc, c'est ça qu'ils projettent sur toi. Et toi, tu compares à toi, mais toi, tu connais tes failles, tu connais tes faiblesses. Et du coup, même dans la comparaison que tu fais, elle ne peut pas être juste, quoi. Et c'est vrai que ça a un gros impact. Moi, je le vois sur pas mal de filles, pas mal de mannequins. Avec qui des fois j'ai des discussions sur des sets ou en casting, et c'est vrai qu'il y avait déjà ce côté de comparaison entre filles avant, par exemple quand elles étaient dans le même model's apartment, et une qui a tel casting et l'autre qui l'a pas, et pourquoi je l'ai pas. Donc il y avait cette comparaison qui était un petit peu après ou sur les castings ou quand elles se croisaient, mais là aujourd'hui c'est vraiment dans le quotidien, c'est-à-dire qu'une fille, elle ouvre son téléphone, elle va voir ses copines, je vais mettre ça entre guillemets, parce que pour moi, il y a toujours une part de compétition, même entre filles qui sont proches, de se voir, ah ben elle a fait ça, elle a fait telle campagne, elle a tel casting, elle vit telle vie. Et je pense que le niveau de comparaison entre filles, il est beaucoup plus haut qu'il y a juste quelques années.
Ouais.
Et je pense que psychologiquement, c'est un point en plus, une pression supplémentaire de réussite et de pression que l'industrie met sur les filles, quoi.
Ouais. Non, c'est sûr. Nous, on entend des choses. Enfin, moi, je poste très peu sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que
tu postes des mèmes.
Pardon ?
Tu postes des mèmes.
Ouais. Mais c'est vrai que les mannequins ou les gens vont aller voir qui tu as liké, pourquoi tu as liké celle-là, pourquoi t'as pas liké cette photo. Donc, si t'as pas liké cette photo, c'est que t'aimes pas la photo ou t'aimes pas la personne. Enfin, ça crée des espèces de délires psychotiques qui sont
c'est grave.
Ouais.
Justement, pour rebondir sur ça, ces dernières années, à juste titre, les conditions de travail et de vie des mannequins étaient mis au centre de pas mal de polémiques. Et on a vu les grands groupes Kering et LVMH lancer des chartes de bonne conduite. Comment ça vous a impacté, vous, au sein de l'agence ?
Je pense que ce sont des choses qui sont allées dans la bonne direction. C'est pas terminé, il y a beaucoup de choses à améliorer. On a vu que le business est devenu beaucoup plus inclusif, que les mannequins sont plus âgés. En meilleure santé, je sais pas forcément. Je pense qu'il y a ces charts ont été super, mais je pense que tant qu'il y aura pas plus d'empathie et de bienveillance généralisée dans ce business à tous les niveaux, je pense qu'on aura toujours du chemin à faire. Mais c'est sûr que sont des mesures qui sont allées dans le bon sens.
Et justement, vous à l'agence, est-ce que vous, il y a des mesures supplémentaires que vous prenez, par exemple dans l'accueil, dans le pitch, dans
non, parce que nous, la plupart des choses sur la, par exemple, la dignité de des appartements de mannequins, nous on n'a pas d'agent, pas de d'appartement de mannequins chez Ford. On loge chaque mannequin individuellement. C'est très rare qu'elles soient ensemble. On les loge soit chez des gens qu'on connaît qui louent des chambres, si les filles nécessitent de vivre avec quelqu'un parce qu'on a besoin que d'avoir un référent par rapport à leurs parents ou quelle que soit la raison. Mais sinon, voilà, on utilise beaucoup Airbnb et les plateformes. On a toujours fait attention que les filles mineures avaient des chaperons. On est très
à cheval sur
ouais,
ça.
Très à cheval là-dessus.
C'est bien.
Tu parlais d'inclusivité, j'aimerais bien qu'on aborde un dernier sujet avant de se quitter. C'est celui de la diversité dans la mode. On a vu ces dernières années qu'il y avait une vraie évolution dans ce sens-là. De plus en plus de mannequins racisés sur les podiums, sur les couvertures, à la tête des directions créatives aussi des maisons. On a des Olivier Rousteing, Virgil Abloh et tout, qui font leur entrée, qui sont depuis quelques années maintenant, mais qui prennent des places assez importantes. Toi, tu nous as dit tout à l'heure du coup, que tu étais maintenant à la tête de Ford Paris, en tant qu'homme noir, pour dire les choses clairement. J'ai l'impression que très souvent, on donne accès à des postes d'image aux gens issus de la diversité, peut-être pour un enjeu, comme je l'ai dit, d'image, juste pour redorer un petit peu le blason de la marque, mais que dans les administrations, dans les postes à vraie décision, on retrouve un petit peu toujours le même type de population. C'est quoi ton regard là-dessus?
Je pense que c'est un sujet tellement complexe. Je vois, par exemple, c'est un sujet sur lequel même mes positions évoluent très souvent. C'est-à-dire que là, je vois ces deux dernières semaines, les deux choses que j'ai vues qui m'ont frappé, c'était un Black in Fashion Council à New York. Donc j'ai vu cette espèce de nouvelle organisation de gens blacks dont j'ai beaucoup de collègues et qui sont des collègues éminents à New York, mais dont ils font partie.
Parce qu'il y a eu un vrai mouvement cette année avec Black Lives Matter, etc. Voilà. Il y a eu une vraie demande qui a un peu forcé aussi les institutions à se mobiliser.
Ouais. Et donc, il y a eu ça. Et de l'autre côté, j'ai vu les nominations du board de Tiffany par LVMH, où donc je pense qu'ils se sont fait backlash sur Diet Prada, par exemple, où c'est 5 hommes blancs, sauf c'est Antoine Arnaud, non, Alexandre Arnaud, qui est au board et qui est le plus jeune des 5, mais donc 5 hommes blancs qui sont censés reprendre la stratégie de Tiffany, qui est une marque
internationale.
Typiquement, un avis féminin serait bienvenu, et puis donc tous les clients, évidemment ce groupe représente pas du tout, après ils seront s'entourer de gens, mais c'est vrai que dans les poste de décision, c'est vrai qu'il faut il faut comprendre que le monde change et qu'il faut avoir différents points de vue à ce niveau-là. Après, il se passe des choses. La couverture du Vogue, où c'est la vice-présidente qui fait la couverture du Vogue, ouais. Aussi justement pour par rapport à ses origines, mais c'est pas la première dame, ce qui est normalement ce qui aurait été le cas. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. La société évolue énormément. Je pense que ça part dans tous les sens. Je pense que ce qui s'est passé au Capitole il y a une dizaine de jours est extrêmement grave et va développer d'autres mouvements. Et dans notre business, il y a des problèmes. Et je pense que c'est des problèmes tellement graves qu'il faut savoir en parler. Et il faut savoir éduquer dans le sens, pas faire la leçon, mais partager des expériences et échanger, plus échanger sur ces sujets, mais d'une façon réfléchie. Il y a beaucoup de gens qui sont des extrémistes dans leur façon d'aborder ces sujets et qui exige des choses qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être. Et je pense qu'il y a des vrais problèmes et il faut savoir échanger sur ces sujets. Mais sans se radicaliser. Voilà.
Toi, dans ton parcours, c'est pas quelque chose que tu as ressenti
Moi, je pense que dans mon parcours, c'est un, je pense, le succès que j'ai eu au début, dès le début, dans les talents qu'on a scoutés, que j'ai eu la chance de manager après. Et après, dans mon parcours, c'est le fait d'être passé aux États-Unis qui m'a, honnêtement, je pense qu'en partant de A à Z à Paris, je serais jamais arrivé où je suis, c'est sûr. Mais le fait de passer par New York et de revenir et d'avoir cette expérience, je pense, ça a été déterminant dans mon parcours.
Ouais, le statut en revenant de New York a fait que de toute façon, c'était plus une problématique.
Et pour être honnête, le seul endroit dans ma vie, que ce soit à Paris ou en Guadeloupe, où je n'ai pas connu de racisme, où je n'ai pas connu de choses liées à ma couleur, c'était pendant mon expérience à New York et aux États-Unis, où là, t'es vraiment là pour travailler, faire du business. Et
ouais, c'est notre mentalité.
Hein. Strictement ta valeur qui est jugée. Il n'y a pas d'autres... d'autres critères. Mais en dehors de ça, évidemment, en France, il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de problèmes liés à ça.
On va finir sur une note un peu plus détendue. On a cette petite question gimmick. On te pose la question et tu essaies de répondre au tac au tac. Le meilleur conseil que l'on t'ait donné?
Ça ne va pas être original, c'est d'être soi-même.
Ça revient beaucoup, ça. Est-ce que tu as un talent caché?
Je fais du piano.
Et tu fais du barbecue aussi.
Barbecue, je suis chaud en barbecue.
Ton petit guilty pleasure?
Un verre de rouge.
Ok, l'emoji que tu utilises le plus?
En ce moment, je me suis fait des emojis avec ma tête, là, avec un masque sur Apple, donc...
J'ai reçu ça hier soir. Est-ce que tu te rappelles du dernier compte Insta que tu as suivi ou qui t'a marqué dernièrement?
Le dernier compte Insta que j'ai suivi, c'est peut-être un athlète. Oui, c'est un athlète de Nike dont j'écoutais le podcast en courant qui venait d'un camp de réfugiés au Soudan. Wow. Ouais.
Fort.
Lopez.
Et la tendance mode que tu n'as jamais compris?
Ah, ça, c'est la question que je sais pas, à laquelle je sais pas répondre. La tendance mode que j'ai jamais compris.
Musique,
Hein?
Ou musique.
Non, mais il y en a tellement. Enfin, déjà, je suis pas une grosse fashionista, donc la plupart, je les comprends pas. mais je pense que la tendance, pour moi, c'est qui est pas spécialement mode, mais c'est vraiment la chirurgie esthétique.
C'est le mal du siècle.
Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui étaient magnifiques et qui se retrouvent avec des visages. On se demande comment on peut en arriver là.
Ouais, et puis un côté assez uniforme maintenant. Voilà. Tout le monde essaie de se ressembler.
Tout le monde se ressemble. Hier, je tombais par hasard, quelqu'un a partagé un compte Insta des avant-après.
C'est dingue.
Wow.
Mais c'est dur. je trouve ça assez triste en fait.
Ouais.
Ok, on finit par la petite punchline. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021 du coup?
Je pense qu'on se le souhaite à tous, c'est que le Covid disparaisse et qu'on puisse reprendre une vie plus sociale et qu'on puisse se projeter plus loin.
Amen.
Amen.